Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission sans frontières économiques. Elle nous mènera cette semaine en Ukraine, au Royaume-Uni et en Afrique. L'Ukraine, oui, d'abord, qui fait la une de l'actualité internationale au quotidien. Une guerre sans fin et d'ores et déjà une volonté farouche de se relever, de reconstruire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimait ainsi il y a quelques jours devant des hommes d'affaires américains.
Together, we'll be able to start the difficult war of rebuilding Ukraine.
Ensemble, nous allons pouvoir commencer la difficile bataille de la reconstruction de l'Ukraine, de nos villes, de notre économie et de nos infrastructures. Ce sera le plus grand projet économique de notre époque en Europe. Toutes les entreprises peuvent réussir en Ukraine, dans tous les secteurs, l'armement et la défense, la construction, la communication, l'agriculture, les transports, l'informatique, les banques ou la médecine. Je crois que la liberté doit toujours gagner. Et je vous invite à travailler avec nous dès maintenant. Dieu bénisse nos pays et nos héros. Gloire à l'Ukraine.
God bless our countries and our heroes. Slava Ukraine.
Travailler avec nous dès maintenant, appel entendu ce vendredi à Kiev par le président du Conseil européen Charles Michel aux côtés du président Zelensky.
The EU is with you today. The EU will be with you and your people tomorrow.
L'Union européenne est avec vous aujourd'hui et le sera demain pour reconstruire une Ukraine moderne et prospère. L'Ukraine, c'est l'Europe, l'Europe, c'est l'Ukraine et c'est à nous d'y parvenir.
Let's make it happen. Slava Ukraini, vive l'Europe. Merci.
Au-delà des promesses, une éventuelle adhésion à l'Union européenne également, où en est de fait la mobilisation internationale pour améliorer la vie des Ukrainiens, permettre le redémarrage de leur économie? Quels moyens financiers peuvent être mis en œuvre? La BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, est au cœur des opérations. Son vice-président, le français Alain Pillou, nous a accordé un long entretien pour détailler sa stratégie à ne pas manquer dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. La guerre en Ukraine, ses conséquences économiques, planétaire, incontournable forcément dans l'ouvrage annuel que publie l'Agence française de développement, l'économie africaine 2023, l'AFD, dont le continent est la zone d'intervention prioritaire, fait le point sur les principaux défis du moment: inflation, alimentation, climat, santé, fiscalité, technologie. Son directeur général, Rémi Rioux, qui entame un troisième mandat, sera notre invité. Ce sera aussi l'occasion de parler de l'avenir de l'AFD, de son rôle en tant qu'institution française en Afrique, dans le contexte de défiance que l'on connaît, entretien que vous retrouverez en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. On vous la postera naturellement sur notre page Facebook RFI Echo, où nous avons le plaisir chaque jour d'accueillir de nouveaux et de nouvelles abonnés de Kinshasa, de Yaoundé, d'Abéché ou de Saint-Louis du Sénégal. Bienvenue. Bonne émission à toutes et à tous. Éco d'ici, Éco d'ailleurs prend d'abord la direction de Londres et du Royaume-Uni en crise. Mission impossible pour son Premier ministre. Chaud d'ambiance à la Chambre des communes ces derniers jours à Londres. L'opposition britannique veut en découdre avec le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, qui vient de passer le cap des 100 jours au pouvoir. Dans un contexte plus que compliqué, la sixième puissance économique mondiale plongée dans une crise sociale sans précédent. C'est le seul pays du continent guetté par une récession. Bonjour Olivier Marty.
Bonjour.
Vous enseignez l'économie européenne à l'université de Paris-Cité et à Sciences Po, où vous présidez le cercle franco-britannique. On va voir avec vous quelles peuvent être les marges de manœuvre pour ce Premier ministre issu du monde de la finance. Mais d'abord, pour saisir la colère contre Rishi Sunak, contre le gouvernement, contre les autres gouvernements conservateurs qui l'ont précédé, je vous propose d'entendre les Britanniques qui ont participé cette semaine à la manifestation londonienne des enseignants, mais pas seulement, rencontrés par notre correspondante Emeline Vin.
La crise porte un nom, crise du coût de la vie. Et depuis un an, Daniela, enseignante, la ressent sur le budget de sa famille de 4 personnes.
Nous n'allons plus dîner au restaurant. Je n'avais jamais considéré ça comme un luxe, mais apparemment ça l'est.
Nos courses sont passées de 100 livres par semaine à 150. Un exemple, avant, j'allais à la boulangerie m'acheter une bonne miche. Maintenant, je prends le pain de mie premier prix au supermarché.
La jeune trentenaire raconte aussi ses collègues, contraints de recourir à des banques alimentaires. Ces dernières ont enregistré une augmentation de 50% des utilisateurs en 3 ans. D'ailleurs, la baisse du pouvoir d'achat remonte à plusieurs années, explique Guy, qui représente les fonctionnaires des ministères.
On a perdu du pouvoir d'achat d'année en année. Surtout qu'on a travaillé très dur, en particulier nous, au ministère de l'Intérieur. Nous avons traversé l'Ukraine, le Covid, et on nous propose une augmentation de seulement 2%, alors que l'inflation est à 10, presque 11%. Est-ce que le gouvernement nous écoute? On veut qu'il agisse.
Les manifestants ciblent le gouvernement conservateur au pouvoir depuis 10 ans et sa politique d'austérité menée dans la foulée de la crise de 2008. Mais le prix, ce sont les services publics qui le payent, dénonce Alex.
Nous avons besoin d'écoles solides, d'hôpitaux solides, mais rien de tout cela n'est faisable sans un personnel et des ressources adéquates. Mais si les employés ne reçoivent pas une augmentation décente, ils vont continuer à aller voir ailleurs.
Pour tous ces manifestants, c'est en cédant sur les revendications salariales que le gouvernement pourra esquisser une sortie de crise. Pour l'instant, c'est non. Même si Rishi Sunak vient tout juste d'arriver à Downing Street, Matt, prof de maths et gréviste pour la première fois, n'a plus confiance.
Il représente la même idéologie, le même programme que ses prédécesseurs. Le visage change, mais c'est tout.
D'autres mobilisations sont prévues dans les 2 prochains mois, au moins.
Reportage d'Emeline Vin à Londres pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Olivier Marty, spécialiste de l'économie britannique, est avec nous. À entendre ces manifestants, Rishi Sunak est comme les autres, seul le visage a changé.
Ça n'est pas tout à fait exact. Il est quand même assez différent de sa prédécesseur, Liz Truss, qui avait un agenda beaucoup plus néolibéral, entre guillemets, beaucoup plus radical, thatcherien, si on veut. Elle était convaincue qu'il fallait baisser massivement les impôts et les dépenses publiques de façon à provoquer un effet de choc très positif qui raviverait la croissance en même temps que cela ferait baisser les prix. Rishi Sunak est un libéral d'idéologie, mais il est quand même beaucoup plus modéré en matière économique comme sur les autres sujets. Et c'est d'ailleurs en raison de la catastrophique expérience de Liz Truss qu'il est arrivé au pouvoir à la fin du mois d'octobre et ensuite début novembre et qu'il a réussi à restaurer la crédibilité budgétaire.
Oui, c'est ça. Hein, sa première mission, ça a été de rassurer les marchés financiers et sur ce point-là, il a plutôt réussi.
Oui, il a réussi. Il a mis à la poubelle le précédent mini-budget qui avait été présenté par le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng. Il a proposé un plan budgétaire composé d'économies assez substantielles, pas non plus extrêmement radicales, et de maintien d'impôts élevés, voire de hausse d'impôts. Une réforme aussi du programme d'aide face à la crise énergétique qui est de nature à faire refluer un petit peu la hausse des prix. Donc cette première mission de restauration de la stabilité financière est plutôt réussi, mais il faut quand même être vigilant parce qu'il y a beaucoup de dettes publiques au Royaume-Uni, près de 100%. Il y a des taux d'intérêt qui restent assez élevés avec un premium qui est dû au fait que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Donc il faut rester évidemment vigilant et pour la suite.
Et cette inflation à plus de 10%, finalement, il est arrivé au mauvais moment avec cette crise énergétique. Il n'est pas aidé par le contexte international.
Le contexte international est quand même assez incertain. Bon, il y a eu des prévisions du FMI qui sont un petit peu meilleures qu'annoncées, mais le Royaume-Uni se distingue de l'ensemble des pays avancés avec une récession prévue pour cette année. Par ailleurs, le Royaume-Uni est la seule économie avancée qui n'a pas réussi à retrouver son niveau de production qu'il avait avant la crise du Covid. Donc le contexte économique sur la croissance est négatif. L'inflation est très forte en raison de pression salariale, elle-même induite par des tensions sur le marché du travail et bien entendu.
Et les pénuries de main-d'œuvre, pire au Royaume-Uni qu'ailleurs.
Les pénuries de main-d'œuvre sont importantes, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens, des centaines de milliers, on estime ça à environ 600 000, qui sont sortis du marché du travail, enfin de la population active pour être exact, depuis la crise du Covid, des gens qui sont soit tombés malades, soit qui, au fond, ne veulent plus travailler comme avant. Et puis, par ailleurs, le Brexit, bien entendu, a ralenti considérablement le flux de travailleurs européens arrivant au Royaume-Uni. Donc, ceci pèse sur la croissance et pousse aussi les salaires à la hausse et donc l'inflation.
Ce Brexit que Rishi Sunak continue de soutenir, écoutez ce qu'il disait fin novembre, quelques semaines après son arrivée au pouvoir.
Let me be Permettez-moi d'être sans équivoque à ce sujet. Sous ma direction, le Royaume-Uni ne poursuivra aucune relation avec l'Europe qui reposerait sur l'alignement sur les lois européennes. J'ai voté pour le Brexit, je crois au Brexit et je sais ce qu'il peut nous apporter. Il apporte déjà d'énormes avantages et bénéfices au pays.
Olivier Marty, le Brexit, une immense opportunité aux yeux de Rishi Sunak. Il l'a redit lundi dernier, les économistes ne sont pas forcément d'accord.
Non, les économistes ne sont pas d'accord. Je crois que Rishi Sunak est à la fois sincère dans la mesure où il a toujours cru au Brexit. Contrairement à certains de ses collègues au Parti conservateur, il a défendu cette position depuis le début. C'est sans doute lié à ses origines plus globales que strictement britanniques ou européennes, le fait qu'il a travaillé aussi à l'étranger. Bien entendu, il s'adresse aussi aux membres du Parti conservateur et à ses militants pour qui le Brexit est une chose formidable. Il y a une forme de déni chez eux quant aux effets réels de ce processus de sortie de l'Union européenne, mais il n'est pas douteux que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a eu des coûts économiques très substantiels via la baisse du commerce, la baisse de la productivité, les pénuries de main-d'œuvre ou encore les barrières réglementaires diverses et variées qui existent.
Ces marges de manœuvre, renforcer justement les liens économiques avec l'Union européenne, il est quand même prêt à des discussions, il a dit ça.
Et oui, il n'est pas fou, il est même intelligent, rationnel, modéré, sensé, ce nouveau Premier ministre. Et donc il essaye d'avoir des améliorations sur le dossier principal qui bloque, c'est-à-dire l'application du protocole nord-irlandais et en particulier, concrètement, les modalités de contrôle des marchandises qui arrivent en Irlande du Nord pour être ensuite redistribuées soit en Grande-Bretagne, soit en Irlande et dans le reste de l'Union européenne. Il y a ici un gros problème, une solution. La solution technique est en train d'être trouvée avec Bruxelles, mais ensuite il faudra la faire passer au Parlement britannique et en particulier devant les députés conservateurs qui n'ont pas envie d'améliorer les relations avec Bruxelles. Tant que le Parti conservateur restera au pouvoir au Royaume-Uni, à mon avis, il sera difficile d'avoir des améliorations substantielles, voire même des améliorations techniques sur cette affaire d'Irlande du Nord.
Autre piste pour éviter à avoir à démissionner immédiatement, baisser les impôts peut-être, revenir un peu sur les hausses d'impôts.
Revenir un peu sur les hausses d'impôts, c'est difficile parce que les contraintes budgétaires du Royaume-Uni sont réelles. Par ailleurs, on a, comme vous l'avez bien dit, une crise sociale importante au Royaume-Uni. Je pense qu'il faut être plus pragmatique sur certaines solutions qui peuvent lutter contre l'inflation. Donc j'ai un petit peu parlé du bouquet d'aides en matière énergétique. Il y a maintenant des aides aux entreprises et aux ménages qui remplacent le mécanisme de plafond qui existait avant et qui était de nature à ne pas suffisamment agir sur la demande. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour soutenir l'investissement des entreprises ou l'investissement en matière de recherche et de développement ou encore la construction de maisons qui sont trois grands enjeux importants au Royaume-Uni. Donc les baisses d'impôts, je ne pense pas que ce soit quelque chose de prioritaire.
Par rapport au problème du marché du travail, laisser davantage d'immigrés entrer au Royaume-Uni peut-être ?
Oui, ce serait bienvenu, mais justement, ce n'est pas la ligne du gouvernement qui voit d'un mauvais œil non seulement l'immigration illégale. Rishi Sunak a d'ailleurs promis en début d'année qu'il allait réduire de moitié le nombre d'arrivées illégales depuis la France. Les arrivées légales, c'est aussi assez délicat, surtout s'il s'agit de travailleurs européens dans le contexte de la crise du Brexit. Si c'est des travailleurs du reste du monde, d'Inde, de Chine, etc., ça peut être perçu d'une façon plus correcte, mais je ne pense pas qu'il faille tellement compter là-dessus.
Merci à vous, Olivier Marty.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
D'une extrémité à l'autre du continent européen, l'Ukraine, dans une situation évidemment bien plus dramatique, qui peut prédire aujourd'hui la date de fin de ce conflit multiforme et que le président russe Vladimir Poutine compare régulièrement à la Seconde Guerre mondiale. La paix, un jour, mais en attendant, et d'ores et déjà, puisque ça va durer, les Ukrainiens pensent à reconstruire un travail colossal et extrêmement coûteux qu'il va falloir financer par milliards de dollars. Ce sera un travail collectif. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par exemple chargé le plus grand fonds d'investissement au monde, BlackRock, d'organiser la gestion des investissements privés. Mais il y a aussi les financements publics. Et ça, c'est notamment le travail de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction reconstruction et le développement. Bonjour Alain Pillou.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de la Baird, présente dans 38 pays. Vous êtes en ligne du siège de cette institution à Londres. Qu'avez-vous fait depuis un an, depuis le début de la guerre, pour aider l'économie ukrainienne, évidemment en chute libre ?
Tout d'abord, ayant écouté le président Zelensky, je voulais vous dire que j'étais à Kiev en octobre dernier, pendant quelques jours, avec la présidente de la Baird, Odile Renaud-Bassot. Et nous avons pu voir sur place le courage, la détermination, la résilience extraordinaire du peuple ukrainien et des autorités ukrainiennes. En ce qui nous concerne, nous avons injecté 1,7 milliard d'euros en Ukraine l'année dernière dans divers secteurs. Premièrement, pour assurer la continuité des services publics indispensables, comme le gaz, l'électricité et les chemins de fer, et également pour maintenir à flot le secteur privé, et notamment les secteurs qui sont exportateurs en Ukraine, comme l'agroalimentaire.
Là, on était sur des aides d'urgence. Alain Pillou, vous restez avec nous. Allons maintenant estimer ces besoins sur le terrain, en Ukraine. Les chefs d'entreprise, les élus, la population plus généralement, sont mobilisés. Reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, d'Abla Jounaïdi du service économie de RFI.
Occupé par les forces russes pendant 4 mois, théâtre de combats féroces avant sa reprise en octobre dernier, Liman, ville du Donbass, emporte partout les stigmates, y compris sur son réseau de gaz qui n'est pas enfoui sous terre. Alors qu'au loin, les bruits de l'artillerie rappellent que le front peut encore bouger, des ouvriers, dont Sergui, s'affairent pour réparer ce qui peut l'être.
Nous réparons les canalisations qui ont été endommagées par les tirs. À certains endroits, il faut les remplacer pour que les gens aient du gaz à nouveau chez eux. Nos équipes travaillent 7 jours sur 7 parce que les installations ont subi beaucoup de dommages. On ne compte pas nos heures. Nous sommes encore en guerre et nous ne sommes pas loin de la ligne de front. Il y a quelques jours, on a subi une attaque de missile dans ce quartier.
À Irpin, dans la banlieue de Kiev, les grues et autres machines de construction soulèvent timidement les vestiges d'immeubles détruits par la bataille du même nom. Au début de la guerre, la ville qui s'est dressée contre les troupes russes en marche vers la capitale a reçu le statut de ville héroïque de la part du président Zelensky, mais elle attend encore la reconstruction qu'elle mérite d'après son maire. Alexandre Markouchine détaille les aides reçues et promises jusqu'ici par les partenaires étrangers.
La plus grande aide vient de Cascais, une ville au Portugal avec qui nous sommes jumelés. Cette ville a envoyé 500 000 euros. L'entreprise autrichienne Ecosoft, qui a des antennes en Ukraine, a déjà reconstruit un établissement pour enfants. Sakar aussi, c'est une compagnie pétrolière. Elle a reconstruit un établissement scolaire pour 2500 enfants. La Lituanie va financer la reconstruction d'une des deux crèches démolies. Nous avons déjà l'argent. L'appel d'offres est terminé et on va commencer les travaux. L'UNICEF va reconstruire l'école qui a brûlé. Tout le monde dit vouloir aider. Il faut des projets concrets, plus ciblés, pour montrer tout de suite le travail effectué. Irpin peut devenir une ville pilote pour la reconstruction.
À Irpin, où de nombreux dirigeants mondiaux s'étaient pressés en juin dernier en promettant leur soutien, plus de 80% des habitants sont revenus vivre ces derniers mois.
Alain Pillou, beaucoup de bonne volonté sur place, beaucoup de bonne volonté à l'étranger aussi pour aider les Ukrainiens. Il faut aller vite, c'est ce qu'on nous dit aussi en Ukraine.
Absolument. Premièrement, il y a un besoin de financement du déficit budgétaire qui cette année va atteindre à peu près 40 milliards de dollars. Ceci est en bon chemin car le financement est maintenant devenu prévisible. Et il est assuré essentiellement par l'Union européenne et par le G7, principalement les États-Unis, dans des proportions à peu près comparables. Il y a bien sûr des besoins urgents de réparation, de remplacement des infrastructures touchées par les bombardements. Quels sont les secteurs prioritaires ? Bien sûr l'énergie et notamment les infrastructures de transmission et les sous-stations, les infrastructures de haut voltage, pour assurer l'approvisionnement en électricité, mais également l'électricité conditionne l'accès au chauffage urbain, l'accès à l'eau, donc c'est absolument vital. En ce qui nous concerne, nous avons injecté plus de 500 millions d'euros dans la compagnie Ukrenergo qui assure la transmission d'électricité en Ukraine l'année dernière. Mais au-delà du secteur énergétique, il y a évidemment des besoins extrêmement importants et urgents dans le domaine du transport, dans le domaine des habitations, des infrastructures sociales et plus tard, peut-être pas dans le court terme, mais il faudra s'occuper du déminage. Et vous savez que la Banque mondiale a estimé que les besoins de déminage en Ukraine se chiffrent à plus de 70 milliards de dollars. Donc c'est un besoin.
Ça coûte extrêmement cher.
Un besoin énorme. 35% du territoire ukrainien est miné actuellement.
Certains évaluent globalement les besoins potentiels à 1000 milliards de dollars. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une course contre la montre avec une guerre qui dure et donc des besoins qui augmentent de jour en jour et de semaine en semaine?
Écoutez, il faut toujours se méfier des effets d'annonce et des chiffres. La Banque mondiale a évalué les besoins en Ukraine dans une étude qui a été publiée l'année dernière à 350 milliards de dollars. Et cette étude est maintenant corrigée et probablement, évidemment, le chiffre sera plus important. Mon estimation personnelle est que le chiffre sera entre 400 et 500 milliards de dollars. Mais ce qui compte peut-être davantage que cela, c'est le court terme. Pour l'année 2023, parce qu'on est toujours en guerre, les besoins immédiats sont chiffrés à peu près à 9 milliards de dollars par le gouvernement ukrainien. L'argent n'est pas tout à fait là, mais il est en partie là. Et ce besoin sera comblé par les différents partenaires. Ce qui est très important aujourd'hui, je voudrais insister beaucoup là-dessus, c'est que l'argent arrive là où il est nécessaire, de manière à ce que la vie des gens s'améliore, de manière à ce que les infrastructures soient réparées. Donc aujourd'hui, en ce qui nous concerne, à la BERD, et également dans les autres institutions internationales, nous faisons en sorte d'accélérer, en fait, les transferts monétaires à l'Ukraine, dans les différents secteurs que je citais tout à l'heure.
D'un point de vue financier, quel est le meilleur procédé? Est-ce qu'il faut procéder par prêt, que ce soit sous forme de dons?
Écoutez, les deux, bien évidemment, parce que la communauté internationale a prêté beaucoup d'argent à l'Ukraine et également aux entreprises d'État ukrainiennes. Mais évidemment, il y a une limite de l'absorption de prêts. Je ne sais pas exactement quand cette limite va être atteinte, mais ce que je sais, c'est qu'il faut aujourd'hui, en 2023, avoir un meilleur équilibre entre les prêts et les dons. Je vous donne un exemple. L'un des secteurs prioritaires, je ne l'ai pas encore mentionné, était de permettre à l'entreprise de gaz en Ukraine d'acheter du gaz de manière à passer l'hiver, de manière à ce que les gens puissent continuer à se chauffer et à cuisiner à la maison. Donc nous avons fait un prêt de 300 millions d'euros à Naftogaz pour acheter du gaz. Mais en plus de ce prêt, la Norvège, à travers nous, a donné 200 millions d'euros à Naftogaz, donc 500 au total. C'est un bon exemple de l'équilibre entre prêts et dons, et ceci devra s'accroître cette année.
Alain Pillou, le vice-président de la BERD, est avec nous dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a évoqué une idée, l'utilisation des fonds gelés de la Russie pour générer des revenus pour l'Ukraine. Est-ce que c'est, selon vous, réalisable et est-ce que c'est, selon vous, souhaitable ?
C'est un sujet d'une grande importance et bien sûr, il faut travailler là-dessus. C'est un sujet qui est également d'une extraordinaire complexité. Une armée de juristes actuellement qui ont été rassemblés par le président Zelensky travaille sur la question. Ça va prendre du temps. Et donc, il faut travailler là-dessus, mais en même temps, il faut absolument continuer à mobiliser les financements pour l'Ukraine. Si nous arrivons dans le futur à mobiliser les fonds gelés, ce sera très bien. Mais il ne faut pas en même temps que cela nous détourne de l'action à court terme.
Il y a donc les prêts, il y a les dons, et puis il y a un appel aux investisseurs étrangers qui, eux, vont vouloir un retour sur investissement. Comment le garantir dans un contexte d'une guerre qui pourrait durer encore des mois?
Écoutez, premièrement, évidemment, nous sommes en temps de guerre, mais je vois que certains investisseurs étrangers prennent des décisions. Par exemple, récemment, nous avons soutenu un grand investisseur polonais qui a réouvert une usine de production de céramique dans l'ouest du pays. Nous avons soutenu une entreprise dans le secteur de l'acier et j'espère que nous soutiendrons bientôt des investissements dans le secteur des télécommunications. En ce qui concerne les investisseurs, il leur faudra du soutien, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient étrangers. Quand ils sont étrangers, que ce soit des investisseurs dans le domaine industriel ou énergétique, ou que ce soit les banques, il faudra avoir un système de couverture du risque de guerre, du risque de conflit. C'est extrêmement important et nous travaillons là-dessus actuellement avec d'autres institutions aux États-Unis et en Europe, de manière à avoir au bon moment les produits qu'il faudra, pour non pas pour garantir les investisseurs en totalité, mais pour faciliter leur investissement en Ukraine.
Une des préoccupations des investisseurs, c'est le niveau de corruption, souvent un frein à la reconstruction dans les pays en guerre. Et on a vu assez récemment que l'Ukraine n'est pas exempte de cette difficulté.
La bonne nouvelle, c'est que vous avez vu que des actions sont prises en Ukraine et des actions extrêmement rapides, coordonnées et je l'espère efficaces dans les dernières semaines. Avant la guerre, avec d'autres, avec le FMI, avec l'Union européenne, le G7, y compris bien sûr la France, nous travaillons beaucoup sur ces questions d'état de droit et de lutte contre la corruption en Ukraine. Ceci n'a jamais cessé et ceci va continuer. Vous savez que dans le programme actuel du FMI, qui devrait être suivi d'un autre programme bientôt, et dans l'aide financière de l'Union européenne, il y a des conditions sur la lutte contre la corruption. Nous-mêmes, nous faisons extrêmement attention à cela. C'est un sujet extrêmement important et qui conditionnera le montant, le volume et la rapidité de l'aide internationale.
Est-ce que, Alain Pillaud, est-ce que les projets en Ukraine se feront au détriment d'autres projets dans d'autres pays dans le monde ?
Écoutez, absolument pas. C'est une excellente question. La situation en Ukraine, en fait, a accru la demande pour nos financements en Europe centrale, dans les pays baltes, dans les Balkans, en Roumanie, en Bulgarie. Pour vous donner une idée, l'année précédente, en 2021, nous avions investi 4 milliards dans la région que je viens de vous décrire. L'année dernière, nous avons investi 5 milliards. Même chose en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, où en 2021, nous avions investi 1,5 milliard d'euros. Et l'année dernière, nous avons investi 2,5 milliards d'euros. Donc, de nouveau, 1 milliard de plus, et qui est très lié, en fait, à la situation géopolitique en Ukraine, et pour ce qui est de l'Afrique et du Moyen-Orient, très lié à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et aux difficultés d'approvisionnement.
Merci à vous, Alain Pillaud.
Merci beaucoup de m'avoir eu dans votre émission ce matin. Merci.
Alain Pillaud, vice-président de la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, entretien à retrouver en toutes lettres à l'écrit sur notre site rfi.fr.
Écho d'ici.
Écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
L'Afrique, effectivement, a besoin de ressources financières, d'où qu'elles viennent, pour se développer. Et c'est la principale mission de notre invité en studio dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bonjour Rémi Rioux.
Bonjour.
Directeur général de l'AFD, Agence française de développement. Vous venez d'être désigné pour un nouveau mandat de 3 ans. L'AFD, budget 12 milliards d'euros. L'AFD qui accompagne des projets dans environ 130 pays, la moitié sont en Afrique. On va revenir largement sur l'ouvrage que vous consacrez au continent, l'économie africaine 2023, aux éditions La Découverte. D'abord une question d'actualité, Rémi Rioux. Est-ce que l'AFD pourrait être amenée à travailler en Ukraine, à aider à sa reconstruction ?
Alors, je suis là au titre de l'AFD, puis je suis là au titre de mes fonctions avec les autres banques publiques de développement. Vous savez, on a lancé un grand mouvement qui s'appelle Finance en commun. Et oui, les banques publiques de développement sont d'ores et déjà, même dans le temps de la guerre, impliquées dans la reconstruction, le soutien à l'Ukraine. La BERD, la BEI, la Banque mondiale, nos collègues allemands de la KfW, nos collègues polonais même de la BGK sont en train de développer une branche internationale. Et l'AFD, alors, n'a pas de mandat encore clair en Ukraine, mais on a déjà fait 400 millions d'euros d'appui aux autorités civiles ukrainiennes.
Sur, et puis on a... sur des secteurs en particulier ?
Non, c'était vraiment le soutien français au maintien des services publics de base de l'Ukraine, évidemment face au choc majeur pour leurs finances publiques. Et puis, vous savez, on a deux filiales. Une filiale qui s'appelle Proparco, qui, elle, a un mandat en Ukraine à appuyer le secteur privé en Ukraine, qui va d'ailleurs assez bien. Il y a, comme toujours dans les territoires où il y a beaucoup d'afflux comme ça, internationaux, il y a beaucoup d'activités privées. Et puis, on a une deuxième filiale maintenant qui s'appelle Expertise France, qui a orienté ses interventions maintenant, notamment sur la documentation des crimes de guerre. Mmh. C'est un grand sujet en ce moment avec ce tribunal à La Haye qui se met en place. Donc voilà, on a aussi cette contribution sur des aspects plus de gouvernance pour aider à la reconstruction.
Les conséquences alimentaires en Afrique de la crise ukrainienne, que fait l'AFD à ce jour ?
Alors, on a une initiative qui s'appelle Alimentation en commun. On a investi à peu près 500 millions d'euros. On suit évidemment avec l'ensemble des partenaires très attentivement l'impact de la guerre en Ukraine pour l'ensemble du monde et en particulier pour l'Afrique. Vous savez, 40% des céréales et des huiles consommées en Afrique sont importées. Le marché des engrais a été très sérieusement perturbé. Et donc, il faut apporter des réponses. La catastrophe, je dis ça avec prudence, la catastrophe annoncée l'année dernière n'a pas eu lieu, donc le système s'est quand même reconfiguré, mais enfin beaucoup de gens sont retombés dans des situations de stress alimentaire, donc il faut continuer dans la durée à réagir. La deuxième année sera peut-être plus difficile encore que la première, donc il faut des réponses.
Ça c'est une vraie difficulté en effet, c'est mener une politique sur le moyen, voire le long terme, après le court terme, tout en suivant l'évolution des cours, et on sait bien que les céréales, ça monte, ça descend.
C'est vraiment le rôle des banques publiques de développement. L'AFD n'est qu'une d'entre elles. J'étais la semaine dernière à Dakar. Le président Adesina de la Banque africaine de développement a organisé un grand sommet sur la sécurité alimentaire. Et l'enjeu, vous avez raison, c'est à la fois d'être contracyclique, c'est-à-dire de venir contrer des évolutions de très court terme défavorables, et puis de profiter de la crise, parce que les crises, c'est toujours des moments de transformation, pour pousser aussi d'autres types d'engrais qui seraient plus respectueux de l'écologie, en fait, de la nature. Et donc, c'est des moments aussi d'accélération de l'innovation, et ce que fait l'OCP au Maroc est plus intéressant par certains aspects que ce qu'exportaient les Russes et les Ukrainiens jusqu'à présent.
Il y a un phénomène qui complique l'accès à l'autonomie alimentaire, c'est le défi démographique.
Oui, la croissance démographique est un grand enjeu. On est sur des choses qui ne se sont jamais passées dans l'histoire du monde, en fait, en Afrique. Par exemple, la population urbaine, je reviens de Garoua au Cameroun, dans le nord du Cameroun, la population urbaine et la population rurale augmentent en même temps. Donc oui, la croissance démographique est un grand enjeu. La croissance économique est repartie en Afrique, c'est une bonne nouvelle. On a effacé, vous l'avez vu, les pertes des deux dernières années. On est revenu sur un rythme de 4% de croissance par an l'année dernière. C'est la prévision également pour cette année. Mais cette croissance est évidemment inégalement répartie. Les pays d'ailleurs les plus solides en ce moment sont plutôt ceux qui ont une économie diversifiée, sont plutôt ceux d'ailleurs qui ont une monnaie forte. Et donc l'Afrique francophone, qu'on décrit parfois plutôt de bonnes performances en ce moment, et d'autres pays dont la monnaie était plus fragile sont en difficulté. Ça rend d'ailleurs les restructurations de la dette aujourd'hui beaucoup plus délicates à réaliser que quand moi je présidais le Club de Paris il y a maintenant plus de 10 ans. Donc il ne faut pas nier, je crois, la réalité de la tension financière qui existe en Afrique. Après, il faut développer l'Afrique. Il faut, encore une fois, prêter attention à l'Afrique. Les grandes agences de notation, les Moody's, les Standard & Poor's, doivent développer plus d'analyses, doivent habiter en Afrique, doivent mettre des équipes en Afrique et mieux comprendre les dynamiques macroéconomiques qui s'y jouent. Parfois, la notation, elle dépend en vérité beaucoup du ce qu'on appelle le track record, c'est-à-dire l'historique de la performance du pays et des analyses chiffrées, encore un peu rudimentaires, me semble-t-il.
Ce risque, il est parfois augmenté, malheureusement, par le contexte sécuritaire, et c'est une autre fragilité qui menace la reprise africaine.
Oui,
on ne peut pas le nier, ça.
On ne peut pas le nier non plus. Après, elle est pas. Il faut. Alors, nous, on aime bien, vous savez, à l'AFD, raisonner à l'échelle de toute l'Afrique, ne pas la couper artificiellement entre Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, anglophone, francophone. On cherche vraiment à voir la force, la puissance du continent dans son ensemble. Mais vous avez raison. Après, il y a des sous-régions, il y a des dynamiques et il y a des points de tension. Le Sahel en est un, à l'évidence. Le Mozambique aussi, le nord du Mozambique est en crise. Une partie de l'Afrique centrale, on sait les tensions entre la RDC et le Rwanda en ce moment, donc oui. Bon, c'est pas tout à fait nouveau. Donc, quand vous dites résilience de l'Afrique, il y a aussi dans les communautés, dans les États africains, toujours on annonce une situation catastrophique et on voit quand même que les systèmes institutionnels, les systèmes communautaires s'adaptent.
Ce qui est quand même relativement nouveau de ces dernières années, c'est la poussée djihadiste dans un certain nombre d'États du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, par exemple. Est-ce que c'est un pays où vous allez continuer d'agir, malgré les soubresauts sécuritaires et politiques ?
On est présent dans toute la zone, évidemment. Historiquement, on a aussi, avec 27 maintenant partenaires pays, les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs très récemment bâti depuis 2017, ce qu'on appelle une alliance, l'alliance Sahel, qui est active dans l'ensemble des pays. Après, nous sommes l'Agence française de développement, donc on est dans l'équipe de France, évidemment, et on est le bras de la politique de développement, mais on n'est évidemment pas épargné par les difficultés politiques, donc on a, vous le savez, suspendu nos opérations au Mali. Ce n'est pas le cas au Burkina Faso, où on continue à exécuter nos projets, en particulier et en priorité, bien sûr, les projets en direction de la société civile et des populations pour leur amener les services nécessaires.
Le Mali, précisément, où la France est contestée, hein, on le sait, la junte au pouvoir qui dénonce une posture néocoloniale, paternaliste, condescendante. L'AFD, le développement à la française, fait partie des acteurs de ce débat.
Alors, bien sûr, au-delà d'un certain niveau de différend politique bilatéral entre notre pays et un autre pays souverain, évidemment, l'AFD est concernée. Donc, vous voyez évidemment les liens avec le Mali qui se sont les uns après les autres dénoués. L'AFD étant d'une certaine façon le dernier. Au-delà du Mali, vous posez une question plus vaste qui est, alors, moi, j'aime pas beaucoup l'expression sentiment anti-français qu'on entend beaucoup en ce moment. D'abord parce que sentiment anti-français, c'est un petit peu parler de soi-même. Il faudrait bien distinguer cette notion de sentiment anti-français en deux pôles. Une aspiration, je crois, des peuples africains à plus de respect, une posture différente. Je crois que nous sommes en train de la définir. Et puis une aspiration aussi démocratique, il faut bien le dire, et à gérer leurs propres affaires. Et puis d'autre part, il y a un discours anti-français. C'est-à-dire, ça, il ne faut pas nier qu'il y a des gens qui soufflent un peu sur des braises et qui rendent cette transformation, je crois, nécessaire, en cours, je crois, engagé par le président de la République lui-même, d'ailleurs, plus difficile.
La politique de développement qui est menée par la France et par l'AFD, pour ce qui vous concerne, elle est critiquée aussi, parfois, par des organisations qui sont présentes sur le terrain, au plus près des populations. On va écouter Louis-Nicolas Jandot. Il est chargé de plaidoyer financement des pays en développement chez Oxfam France. On écoute et vous pourrez réagir.
Nous sommes aujourd'hui face à la pire crise humanitaire qu'ait connue la planète depuis 1945. C'est le directeur du programme alimentaire mondial qui l'a déclaré récemment. Donc, dans cette situation, les pays riches, à commencer par la France, ont une responsabilité particulière. Cette responsabilité, elle passe avant tout par le respect des promesses, à commencer par exemple par les 0,7% de sa richesse dédiée à l'aide publique au développement d'ici 2025. Et sa responsabilité, elle est encore plus importante sur certains enjeux. On voit depuis quelques semaines qu'il y a une vraie volonté de politiser l'aide au développement. Je pense entre autres aux récents propos du ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin, qui dans l'hémicycle, en réponse à un député sur la question des migrations, estimait que les pays de départ doivent être responsabilisés, notamment en conditionnant les aides au développement. Cette tentation de conditionner, limiter, etc., etc., l'aide au développement est dramatique, car on évite les populations les plus vulnérables, on creuse encore plus les besoins, et deuxièmement, c'est une mécompréhension totale des sujets. Tout d'abord, ce n'est pas ces populations les plus vulnérables qui vont se déplacer. Et deuxièmement, en surpolitisant cette aide au développement, on évite de fait la société civile dans ces pays. Pourtant, en première ligne, face à ces différents besoins, par conséquent, là où la France a d'autant plus un leadership mondial, il faut qu'elle l'assume. Et typiquement, lors du sommet souhaité par Emmanuel Macron en juin prochain sur un New Deal financier avec les pays en développement, il faut à tout prix que cette société civile soit présente et mobilisée.
Alors Rémy Rioux, je ne vais pas vous demander de répondre à la place de Gérald Darmanin ou d'Emmanuel Macron. Simplement ce chiffre-là, cet objectif des 0,7% du revenu national brut censé revenir à l'aide au développement d'ici 2025, Est-ce qu'il est atteignable? Aujourd'hui, on est à 0,55, c'est ça à peu près?
Le dernier chiffre officiel qu'on a, je crois, c'est 0,51. On sera bientôt à 0,55. Mm-hmm. Ça, c'était la cible à la fin de l'année 2022. Donc, ça veut dire un peu plus de 13 milliards d'euros quand même d'investissement chaque année, un quasi-doublement depuis une dizaine d'années. Le Parlement devra et le gouvernement se prononcer dans les prochains mois, peut-être avant ce sommet de juin, puisque c'est un grand sommet international où la France devra venir et expliquer son propre engagement sur la suite de la trajectoire du financement du développement.
En sachant que la France n'est qu'un des éléments au niveau mondial du développement, une des pièces du puzzle.
Évidemment que le développement de l'Afrique, évidemment que la lutte contre le changement climatique, évidemment que la protection de la biodiversité ne va pas passer que par l'aide publique au développement de la France. Et ça, tout le monde le sait, vos auditeurs en particulier. Je crois qu'on est en train de basculer sur un tout autre récit, une toute autre façon de fonctionner. Donc, c'est ce que nous, on a appelé « Finance en commun », qui est le rassemblement, finalement, de toutes les banques publiques de développement, pas seulement l'AFD, pas seulement les banques internationales, mais aussi et surtout les banques publiques de développement nationales, c'est-à-dire celles qui transforment leur propre pays, celles qui investissent. Et sachez qu'en Afrique, il y en a une centaine.
Rapidement, sur cette articulation entre l'aide au développement et la politique migratoire, est-ce qu'il faut conditionner l'aide au développement à la politique d'un pays de départ? Est-ce que c'est un paramètre qui doit compter?
Le Parlement, encore une fois, a redéfini une politique de développement. Donc on a un dispositif maintenant complet, politique, technique, financier. Et cette politique publique, elle a évidemment à voir avec les autres politiques publiques. Ce que les gens du développement n'aiment pas, c'est quand on leur dit « vous êtes un instrument de la politique migratoire ». Parce que c'est nier finalement leur propre mission, leurs propres objectifs. En revanche, qu'on discute des liens entre politique de développement et politique migratoire, oui, c'est un... et je dirais d'abord en Afrique, puisque vous savez très bien que les mobilités, les mouvements de personnes et la capacité d'un État africain ou de la France de gérer, finalement, de faire face à ces mouvements de plus en plus importants à cause de la pauvreté, à cause de l'insécurité, à cause du climat, c'est un sujet de développement, à l'évidence, dans lequel nous pouvons investir.
Rémy Rioux, directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, et l'invité d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
RFI, les voix du monde.
Rémy Rioux, vous agissez au service de la diplomatie française, même quand le régime en place est critiqué sur son manque de démocratie.
Nous sommes l'agence
de respect de la démocratie.
L'agence française de développement, donc les mots ont un sens. Donc nous sommes évidemment un acteur français qui s'inscrit dans la politique internationale définie par les autorités.
Donc de promotion de la démocratie et des libertés publiques.
Il se trouve que nous sommes un des visages, une des capacités, vous avez aussi les diplomates, les militaires, de cette projection, de ce travail international de la France. On a dans notre mandat, ça a été écrit dans la loi du 4 août 2021, non seulement la lutte contre la vulnérabilité, la pauvreté, non seulement la protection des biens publics mondiaux, mais aussi, oui, le travail sur les droits humains, les droits politiques, la gouvernance des États. Simplement, on le fait d'un point de vue particulier, nous qui est, non pas en surplomb, mais qui est vraiment en partant des projets, en partant de la base dans tous les pays, effectivement, où nous sommes appelés à travailler.
L'aide au développement durable. On y vient, le changement climatique a évidemment bousculé l'agenda de l'aide au développement. C'est une charge supplémentaire? Ce sont des lignes budgétaires qui ont dû être transférées au détriment d'autres?
Pas du tout, c'est vraiment la même chose. Il ne faut pas opposer la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique. Ça, l'AFD l'a compris maintenant très clairement, puisque ce sont évidemment les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, qui sont frappées plus que proportionnellement par le réchauffement de la planète et la destruction de la biodiversité. Donc il faut au contraire, non pas opposer les priorités, mais essayer dans chacune des actions de combiner protection de la planète et insistance, recherche des impacts pour les plus pauvres.
On sait quand même qu'il y a des populations vulnérables qui vivent de la forêt, qui ont besoin de la déforestation pour vivre.
Qui sont d'ailleurs c'est souvent, vous le savez...
C'est le cas parfois en RDC, c'est le cas en Côte d'Ivoire, dans l'industrie du cacao, par exemple. Donc parfois, il peut quand même y avoir une opposition. Enfin,
Alors, le mot est peut-être pas le bon. Ces populations sont souvent aussi les protectrice de la forêt. On le voit aussi dans l'Amazonie ou ailleurs, ces peuples autochtones auxquels on doit aussi respect et attention sont les sentinelles de la biodiversité. Elles gardent, elles ont des pratiques agricoles, culturelles, économiques qu'il faut réexplorer, qu'il faut recomprendre. Et puis, il faut bien sûr amener des technologies, amener des pratiques pour concilier développement, lutte contre la pauvreté et environnement. Et j'aime pas beaucoup le discours, vous savez, parce que c'est l'Afrique, on s'occuperait pas du climat. D'abord, c'est pas du tout ce que j'entends dans tous mes déplacements, dans tous mes échanges avec les interlocuteurs africains. Je pense que, bien sûr, c'est un très grand défi de concilier les deux. Il y a des tensions, il y a des tensions chez nous.
Il y a ce débat sur l'exploitation pétrolière.
Absolument, il y a le débat sur le gaz. Mais il y a la recherche, je crois, dans tous les pays du monde. C'est d'ailleurs l'engagement qu'on a pris en 2015 à l'accord de Paris, de dessiner des trajectoires de long terme où on optimise finalement la croissance économique et sa décarbonation la plus rapide possible en tenant compte des situations de chacun des pays.
Est-ce qu'il faut davantage évaluer le travail de l'Agence française de développement, surveiller effectivement les impacts à court, à moyen et à long terme? Qu'est-ce qu'il en sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans?
Alors, moi, j'appelle évidemment à beaucoup plus de débats, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'évaluation sur les projets que finance l'AFD et toute la communauté, d'ailleurs, des institutions financières internationales. Parce que sinon, on risque de perdre, vous avez raison, le soutien de nos concitoyens. Parce que des fois, le développement, vous savez, soit on dit tout est parfait, c'est formidable, soit on dit tout est pourri, c'est que de la corruption. Évidemment, là, c'est un travail difficile. Moi, j'appelle à une évaluation, une appréciation précise, documentée de ce que nous faisons.
Dernière question, le développement par le sport fait aussi partie des priorités de l'Agence française de développement. Objectif Jeux Olympiques, Paris 2024. Vous allez aider aussi des athlètes africains ?
Oui, on a un incubateur sur des projets de développement promus par des athlètes africains et français d'ailleurs, qu'on va pouvoir présenter lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est Paris-Dakar, la séquence qui s'ouvre 2024-2026 avec les Jeux Olympiques de la jeunesse, le premier événement olympique depuis le baron de Coubertin en 1896, organisé sur le sol africain, aussi incroyable que ça puisse paraître, puisque un tiers des athlètes, un tiers des médaillés, je l'espère, en 2050, viendront d'Afrique. C'est le simple effet de la démographie et du rajeunissement du continent. Donc nous, oui, on investit depuis mon arrivée en 2016 très systématiquement dans le sport pour le développement, bien sûr, parce que mettre du sport dans des projets d'éducation, comme au Rwanda, dans des projets de santé, dans des projets de développement urbain, dans la construction aussi de tout l'écosystème économique du sport, parce que c'est un business, le sport, et donc ça crée de la valeur. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et puis, encore une fois, ça, je crois que c'est une façon de parler aussi à la jeunesse africaine qui s'interroge sur ses liens avec le reste du monde, et en particulier avec la France. Donc c'est ce signal-là que nous souhaitons passer.
Le sport relié à tout le reste. Merci Rémi Rioux.
Merci à vous.
Et cet entretien, vous le retrouverez en version enrichie en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, de plus en plus suivie. Merci à Sandrine Straram, à Ariane Poissonnier, à Guillaume Lunier, notre réalisateur. Partagez cette émission sur notre page Facebook RFI Echo. Rendez-vous la semaine prochaine pour un grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. On parlera de crypto-monnaie, on parlera d'or, on parlera de blockchain avec un entrepreneur camerounais plein d'idées et plein d'énergie. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.